C'était No One Is Innocent, Charlie. Bienvenue sur Radio Campus. On va reprendre le cours de notre émission. Donc cette fois-ci, je suis en compagnie de Cyril Liron, Benoît Dahan, Soria et Fanche de la Tour de Bulle.
Donc, salut.
Ouais, c'est toi qui nous as sorti ce thème un peu.
Ouais.
Donc tu vas nous le répéter parce que moi j'ai pas envie.
Alors en fait, je cherchais à présenter trois auteurs que j'aime bien, un thème qui les unit et du coup, ce sont trois auteurs qui ont utilisé un personnage qui existait déjà. Alors un personnage de l'imaginaire collectif, on va dire, c'est avec Sherlock Holmes qui existe, qui a été repris maintes fois repris, avec des codes existants, parfois non. Exemple Sherlock Holmes contre Frankenstein par exemple ou autre. Et Soria, lui, c'est aussi intéressant. Il a été le premier à reprendre un personnage de bande dessinée qui existait déjà, un personnage de Florent Mozou, Xao, et il en a fait une série en trois tomes. Et donc deux reprises et deux thèmes différents, et on va en parler maintenant.
Eh bien c'est bien, voilà, parfait.
Alors on va commencer à l'honneur pour la Tour d'Ivoire. Je vais laisser se présenter d'abord toi, Benoît, un petit mot.
Ben bonjour, merci pour l'invitation. oui, ben merci pour le prix surtout. Ça m'a beaucoup touché et je suis très content d'être ici. Donc bah là, effectivement, je suis venu pour le prix, c'est pour Psycho-Investigateur, la série que je fais avec Erwan Courbier. Et là, on va parler de Dans la tête de Sherlock Holmes, que je fais avec mon ami Cyril Liron, qui est à mes côtés aujourd'hui.
Salut Cyril.
Bonjour, et merci pour l'invitation.
Ah. Et bonjour Soria.
Bonjour.
Voilà. Alors, on va commencer par vous sur Sherlock Holmes. Alors, donc, là, on est sur un personnage qui a été plusieurs fois repris, plusieurs fois interprété. Et quelle a été votre ligne de conduite sur la personnalité de Sherlock Holmes, puisque là on est vraiment sur une BD intérieure, on est dans la tête de Sherlock Holmes. Quelle a été votre ligne de conduite? Quel a été le choix fait?
Alors, là, je vais prendre la parole en premier. Je pense que vraiment, d'abord, c'est une histoire d'amour. Déjà, c'est un amour pour l'époque, un amour pour le personnage, déjà, et un amour aussi, de façon générale, pour les écrits de Conan Doyle. Et d'autre part, notre ligne de conduite, ça a été justement de retourner un petit peu aux sources, parce que comme tu le disais très bien, il y a eu beaucoup d'adaptations de Sherlock Holmes, plus ou moins réussies, avec des choses des fois qui allaient très loin, et effectivement, Sherlock Holmes contre Jacques l'Éventreur, des machins comme ça. Et nous, on voulait vraiment recoller au personnage, avoir la psychologie du personnage, mais en apportant quelque chose de différent, un autre point de vue, et qui n'est pas le point de vue de Watson, puisque d'habitude, dans les nouvelles et les romans, c'est le narrateur. Et donc là, on est dans la tête de Sherlock Holmes, et c'était justement l'intérêt de faire quelque chose à la fois qui retournait aux sources, et en même temps qui apportait un point de vue différent. Donc ça, c'était l'idée de Benoît, au départ, qui est venu m'en parler en 2013, donc ça fait déjà un petit moment, et le temps qu'il fasse ses autres BD, notamment Psycho-Investigateur, les choses ont mûri et on a fini par se lancer sur ce projet qui nous tenait vraiment à cœur. En tant qu'amis, parce qu'on avait vraiment envie de travailler ensemble, et puis en tant qu'amoureux du personnage et de l'auteur.
Sur cette BD, il y a un fil rouge dans la démarche de Sherlock Holmes. On voit un fil qui se démêle. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de ce film?
Alors effectivement, bah, comme disait Cyril, non seulement on a voulu prendre le point de vue de Sherlock Holmes dans les histoires, donc on voit de l'intérieur de sa tête, et du coup on s'est basé sur le vocabulaire qui est utilisé par Conan Doyle dans les livres, et il y a des mots qui reviennent assez régulièrement qu'on a pris au pied de la lettre. Donc entre autres, il parle souvent du fil de l'enquête, le fil qui parfois s'en mêle, le fil se casse, il y a plusieurs fils, le fil amènera à la vérité, etc. Et ça revient assez fréquemment. Donc on s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa d'illustrer ça au pied de la lettre et d'avoir le fil de l'enquête qui apparaît dans la bande dessinée, qu'on voit sillonner entre les cases, derrière les cases, etc. Et à chaque fois que Sherlock trouve un indice, cet petit indice, sous la forme d'une icône qui est dans une petite pastille cerclée de doré, vient se greffer le long du fil rouge. Ce qui fait qu'en fait, le lecteur peut voir l'avancement de l'enquête de Sherlock au fur et à mesure, avec les éléments qu'il a déjà récoltés. L'autre élément qu'on a pris au pied de la lettre, on va dire, par rapport au texte, c'est quand Sherlock parle de sa mansarde. En fait, il fait référence à son cerveau en la décrivant comme une mansarde ou un grenier, dans laquelle, comme il dit dans l'étude en rouge, en expliquant à Watson, dans laquelle l'ouvrier adroit prendra grand soin de stocker les choses qui lui seront utiles pour son métier. Et comme lui, son métier, c'est détective, bah, il va stocker des connaissances sur les poisons, la criminologie, les empreintes de pas, les cendres de cigarettes, etc., etc. Voilà. Et à l'exclusion de tout ce qui l'estime ne pas être utile dans sa démarche. Donc, par exemple, sa
méconnaissance du système solaire.
Voilà, il refuse de connaître la composition du système solaire, ce qui estomaque Watson, bien sûr.
Vous avez sans doute fait énormément de recherches sur le personnage et sur les reprises plus ou moins fidèles à l'œuvre originale. S'il y en avait une où vous vous êtes dit là il est dans le vrai, dans ce qu'on souhaite faire, et une autre où là c'est pas trop ce qu'on souhaite faire.
Alors en ce qui me concerne, je crois que je vais citer mon premier contact avec Sherlock Holmes, c'est quand j'avais 10 ans où j'ai vu le film Le Secret de la Pyramide. En anglais, c'est Young Sherlock Holmes.
De 85,
qui est un film absolument génial, et Cyril aime beaucoup aussi. Je l'ai vu avant de voir Le Chien des Baskerville de Peter Cushing. Et donc, c'est le film Le Secret de la Pyramide qui m'a fait aimer le personnage de Sherlock Holmes, qui m'a fait connaître pour la première fois. Et bien qu'il y ait eu des libertés prises, puisque évidemment, normalement, ils ne se sont pas rencontrés adolescents, Sherlock et Watson, et en dehors de ça, c'est d'un respect énorme pour le caractère des personnages, leur passé, leur développement. Et l'ambiance victorienne en plus est exceptionnelle. Ce film a beaucoup de qualités, je pourrais en parler longtemps. mais du coup, pour moi, c'est, je pense à cette adaptation en premier, quoi. Pour plusieurs raisons, du coup. Voilà.
Alors, pour ma part, c'est Le Chien des Baskerville avec Peter Cushing. Ah. C'est-à-dire que j'avais vu ça lors de l'émission qu'animait Dee Mitchell.
La dernière séance,
il y avait une petite présentation du film en amont. Et c'est vrai que je ne connaissais pas du tout le personnage, mais l'ambiance un peu fantastique, etc. Et surtout l'acteur, parce que ça a été aussi un vrai coup de cœur pour l'acteur qui était pour moi vraiment un acteur formidable, qui était capable de jouer dans n'importe quelle situation. Il se prenait au sérieux et rien que son jeu vous mettait déjà dans l'ambiance du film.
Peter Cushing, bref, ouais, c'est voilà. Enfin, un acteur mythique. Ouais,
ah là là.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que
c'est Dieu, c'est Dieu.
La Hammer et enfin bon, voilà.
Tu dois
pas
citer
d'ailleurs, mais
tout à fait. Beaucoup.
Et c'est pour ça d'ailleurs que le Sherlock de Benoît ressemble fortement à Peter Cushing. Ouais. C'est pas un hasard et on l'a même mis dans les remerciements. Mais donc voilà, c'est ça qui m'a marqué. Et ensuite, parce que le film prend beaucoup de liberté avec le roman, et j'ai redécouvert Sherlock Holmes bien des années plus tard avec les petits livres à 10 francs qu'on trouvait dans les librairies.
Et il y avait la collection
Librio, et où il y avait des nouvelles comme ça qu'on pouvait lire et acheter facilement. C'est comme ça que j'ai aimé plus tard, vers la vingtaine.
Ok. Alors beaucoup une œuvre pléthorique sur Sherlock Holmes. Par contre, toi, Souria, donc tu vas récupérer un personnage, celui de Florent Modou, et toi, tu es le premier à interpréter un personnage.
Le premier et pour l'instant seul. Hein,
oui, tout à fait.
Je pense que Florent, pour l'instant, il n'a pas fait d'autres spin-off.
Non, avec d'autres artistes, il les a fait tout seul. Oui,
il les a fait tout seul.
On va juste expliquer la relation que tu as eue avec Florent. Donc, tu l'as contacté sur son blog, tu peux nous raconter comment ça s'est passé.
J'étais en résidence d'artiste à l'époque, à Angoulême. Et déjà, Florent cherchait à faire un spin-off donc qui n'était pas sur Xiongmao à la base, c'était sur Valkyrie, un autre personnage de sa BD. Et un éditeur chez Ankama Edition avait retenu mes dessins, parce que j'avais un blog de dessins à l'époque. Et c'est comme ça qu'ils m'ont contacté pour travailler dessus. Ouais.
Alors je sais, du coup, Soria, on se connaît un petit peu, je sais que tu aimes beaucoup les personnages féminins. Ma première question que je voudrais te poser, c'est imaginons qu'il il te demande un spin-off sur Le Loup ou... est-ce que tu aurais accepté ou pas?
Peut-être pas, non.
Ouais, voilà. Alors, quand tu es le premier à interpréter un personnage qui existe, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu dis je dois tout lire? Est-ce que je dois en parler avec Florent qui sera du coup le scénariste? Est-ce qu'il t'a expliqué, voilà, mon personnage, il a telle pensée, telle chose, je voudrais que ça reste un peu comme ça, ou il t'a laissé un peu une marge de manœuvre?
Alors, il m'a laissé une marge de manœuvre, puis surtout, on a pu travailler côte à côte. On a été dans le même atelier à Lyon, donc on a pu échanger sur le scénario et sur les dessins. Il m'a laissé assez libre, honnêtement, sur l'interprétation. Ensuite, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est c'était l'histoire, bien sûr, d'avoir quelque chose qui était quand même assez proche de ce que je ressentais émotionnellement par rapport au personnage. Hein. Pour pouvoir aussi insuffler une part d'amour, déjà, exactement, apprécier le personnage et se dire que, même si c'est une histoire qui n'est pas la mienne, pouvoir quand même apporter ma petite pierre dedans et que ce soit personnel, justement.
Okay. Alors, une image qui est vraiment ta part, qu'on ressent dans la BD, c'est la couleur, qui est complètement différente que de l'œuvre de Florent Modou. C'était un choix de trancher vraiment sur la couleur.
Peut-être pas sur la couleur, mais en tout cas, oui, sur le dessin. Avec Laurent, on en avait parlé. On a décidé dès le début que ça serait quelque chose de très très différent. On avait envie que ça puisse se lire indépendamment de la série principale. Donc c'était un parti pris, et en même temps, pour moi, c'était beaucoup plus simple parce que je n'avais pas envie d'imiter son dessin ou quoi que ce soit. Ce serait beaucoup trop dur, déjà.
Alors, une chose que tu as pu faire et que vous, vu qu'on a pris un Sherlock Holmes à l'âge adulte, c'était un petit peu compliqué, on va en reparler, c'est que le fait de prendre la jeunesse d'un personnage, c'est que du coup, en termes graphiques, tu as un petit peu plus de liberté puisque du coup, l'enfance de Mao, bah, on n'a pas d'image d'elle. Ça, c'était... plus facile ou une difficulté, justement?
Plus facile, clairement. Beaucoup plus de liberté. Puis, bon, après, c'était supervisé par Florent, donc il n'y avait pas trop de soucis à ce niveau-là. Quand j'avais une question, je pouvais lui demander, puis on réglait les soucis très très vite ensemble. Donc,
Ok. Alors, tu citais, Benoît, le film de 85, donc La Jeunesse, où on voit un Sherlock jeune, où il se rencontre au pensionnat. Du coup, votre choix, vous, c'était de parler du Sherlock adulte. Du coup, on a des critères graphiques obligatoires qui sont pourtant fantasmés, comme le chapeau ou autre, mais on peut difficilement s'extraire de l'imagerie collective.
Oui, c'est sûr qu'il y a quand même une imagerie qui est très très installée. Alors après, il y a plusieurs niveaux. Si on veut céder complètement à cette imagerie installée, on va lui mettre son célèbre chapeau, le Deerstalker, en permanence, alors qu'on sait bien qu'en vrai, c'est un chapeau de campagne et qu'il ne le mettait qu'à la campagne et qu'en plus, il n'était même pas spécialement prévu dans les écrits au départ. C'est les illustrations de Sidney Paget au départ qui ont été faites à l'époque qui ont donné l'idée en fait ensuite aux acteurs de théâtre de porter ce chapeau, etc. Et ensuite, c'est resté. Alors, donc nous, notre personnage, ça sera comme dans la série télé avec Jeremy Brett, c'est-à-dire qu'il le mettra que quand il sera à la campagne. Sinon, c'est chapeau de forme ou autre type de chapeau. Mais oui, c'est une imagerie. Alors, la pipe, bien sûr, la loupe. Et puis après, il y a tout simplement leur cheminée, leur intérieur. Il y a vraiment des choses qui sont très connues. On a des codifications, leur fauteuil, etc. Leur papier peint, enfin, plein de choses qui rentrent en jeu.
C'est sûr que même une personne qui n'a jamais lu Sherlock Holmes, il a des images quand on lui parle de Sherlock Holmes qui sont installées dans l'inconscient collectif, finalement. Et ça, il faut arriver à en sortir quand vous reprenez le personnage.
Alors, en sortir, oui et non, parce qu'il y avait un double intérêt. C'était d'abord de retourner aux sources, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'était aussi que les vrais amateurs de Sherlock Holmes puissent s'y retrouver. Donc, il y a des petits clins d'œil, comme notamment sa désapprobation pour le système solaire. Il y a des petits clins d'œil comme ça qui sont un petit peu cachés. Et on voulait aussi que les gens qui ont simplement entendu parler de Sherlock Holmes et qui ont cette image un petit peu toute faite, puissent simplement apprécier une bonne histoire, une bonne enquête, enfin la mieux possible. On a essayé en tout cas. Et voilà, donc on voulait vraiment pas sortir en fait du carcan de Sherlock Holmes.
Non, parce qu'en fait, c'était justement comme il y avait le point de vue différent qui suffisait à notre sens, en tout cas à justifier l'existence d'un tel projet. C'était vraiment un autre angle d'attaque par rapport à ce qui avait été fait en BD. Du coup. Comme disait Cyril tout à l'heure au début, on a vraiment collé de très près en fait à l'œuvre originale. Donc oui. On n'a pas essayé de s'en démarquer. Là où on s'en démarque, c'est sur le point de vue. Et puis du coup, comme il y avait pas mal de BD de Sherlock Holmes qui existaient, qui étaient la plupart dans un style assez réaliste, on s'est dit, bah tiens, allez hop, on va plutôt prendre le contre-pied et faire des visages un peu plus cartoon, d'ailleurs moins réaliste que ce que je fais dans Psycho Investigateur, pour le coup,
c'est vrai.
Un peu plus caricatural. Et ça aussi, c'est une manière de se démarquer un petit peu, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on peut coller complètement à l'œuvre originale.
Oui, ça respecte l'esprit de Sherlock Holmes.
Et d'ailleurs, on a eu la grande joie et le grand honneur d'être approuvé par la société Sherlock Holmes de France. Ils ont adoré notre BD.
Ah, c'est génial.
Ce qui n'est pas évident, parce que quand il y a un truc qui n'est pas exactement comme ils l'entendent, souvent, ça passe pas. Donc, on est très contents.
Et Soria, ton actualité, elle est aussi sur la reprise d'un personnage au Japon. Est-ce que tu peux nous en parler deux petites secondes?
J'ai illustré donc, avec Elsa Bordier, qui est au scénario, un spin-off de Ayako, qui est un manga de Osamu Tezuka. Et, ouais. C'est un one-shot dans un magazine qui s'appelle le Tezukomi, un petit one-shot de une vingtaine de pages, 30 pages. Voilà.
Ah, c'est chouette.
C'est super, ouais. C'est une belle, une belle expérience.
Ouais, et par contre, là, il était pas dans, vous ne partagiez pas le même bureau. Comment ça s'est passé pour mettre en place l'histoire?
C'est moi qui lui ai proposé du coup de travailler sur ce spin-off-là. J'avais, en fait, Ayako, c'est un de mes mangas préférés de Tezuka, j'aime beaucoup. Et du coup, je lui ai demandé si on pouvait faire un spin-off sur, sur ce manga, et elle a lu, et on a beaucoup échangé sur ce qu'on voulait dire, et quel moment choisir aussi, parce que c'est, le Ayako, c'est vraiment sur une longue période de temps, et beaucoup d'années sur le personnage principal. Et du coup, on a discuté, on s'est appelé, et on a construit l'histoire petit à petit ensemble.
Super, donc je crois que ça sortira pas en France.
Je pense pas, non. Ouais. Ça m'étonnerait.
Donc si on aime l'œuvre de Soria, donc faut partir au Japon. Alors,
faut le commander peut-être.
Ouais. Ouais. Bah voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour ces échanges.
Merci à vous.
On va vous libérer et vous laisser à votre public, hein, quand même, puisqu'ils sont là pour vous. Et voilà, bah merci.
Merci donc beaucoup.
Merci encore.
On va passer un petit morceau donc de Gwen Stefani, Rich Girl, et on passera au thème suivant avec Pascaline.